tous. Voilà, tout ça. Merci Pascal de me donner l'opportunité de présenter le volet un peu spirituel auprès des sportifs de niveau. Philippe, tu ne seras pas venu pour rien, j'en avais qu'un seul exemplaire. Donc, comme tu connais Raina Florokori et que j'ai eu l'occasion de la suivre pendant plusieurs semaines où elle raconte son parcours, on a fait une série documentaire qui s'appelait Esprit sain dans un corps sain. Alors, le graphiste l'a symbolisé comme ça, mais il faut bien lire Esprit sain dans un corps sain, avec le mot sain au centre, avec un T. Contrairement à la médecine reprise par Asics. Et on l'appelait au-delà des épreuves. Voilà. Et les sportifs se confient comme jamais ils se sont confiés, en fait, on va dans l'intime. Et Reyna revient, je pense que tu as dû suivre ça, son échec à Londres 2012, avec ce faux départ terrible de préparer pendant 4 ans une compétition et de faire un faux départ en demi-finale. Donc, surtout qu'on a des chances de pouvoir être en finale. Je propose qu'on mette un diapo si c'est possible.
Alors, je vais essayer de partager avec Alain. On va voir si ça veut bien. Il faut juste que ça doit être ça.
Voilà.
Alors, est-ce que vous voyez?
Oui.
D'accord.
Ouais, c'est extraordinaire la technique, bravo. Gérer ça. Alors, oui, je sais pas si on peut basculer en plein écran ou pas. En diapo.
Alors, qu'est-ce que diapara? Ouais.
Là.
Diapara, oui, pardon.
À partir du début, c'est normal.
Voilà.
Oui, je te vois.
Alors.
Ça marche, hein, je pense. Est-ce qu'en visio ça marche pour
C'est bon,
Oui.
Alain? Oui.
Oui, c'est bon. D'accord.
Voilà, donc j'aimerais vous parler d'une structure que j'ai montée il y a quelques temps maintenant, qui a été réfléchie pendant plusieurs années et qui s'appelle Holistic Sport. Et donc, avec cette vision justement holistique du sportif. C'est un mot qui vient de plus en plus dans les discussions et notamment dans les congrès à l'international, la dimension holistique de l'individu. C'est-à-dire que, comme Philippe nous l'a expliqué, on considère de plus en plus que l'athlète n'est pas juste un corps au service d'une performance. On va parler de l'état d'âme d'un sportif. Mais on va très peu parler de son esprit. Donc, un individu est corps, âme et esprit. Alors, le sportif a des kinés, a des ostéos pour prendre soin de son corps. Il a un coach mental pour prendre soin de son âme. Il peut même avoir accès à un psychologue. Mais qui prend soin de son esprit sur la question du sens de la vie, les questions existentielles. Et ça, on a mis ça de côté. Alors, si on regarde aux champions, si on regarde aux meilleurs, parce qu'en général c'est ce qu'on fait, on a tendance à regarder peut-être du côté des États-Unis ou de l'Angleterre pour le football, qui est le premier championnat. Depuis plus de 30 à 40 ans, ils ont des aumôniers à disposition. Moi, je dis toujours, la France, on a 30 à 40 ans de retard sur les autres. On s'en rend compte, même sur le modèle universitaire, la place du sport, ce qui est fait. Là, j'accompagne un jeune joueur, ben, il est parti aux États-Unis parce qu'on lui donne une bourse, on va le payer pour jouer au foot et on lui permet d'avoir un diplôme à l'issue. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a été mis en partenariat avec la Fédération française de football, mais on fait partir nos jeunes talents à l'étranger parce qu'il y a des structures. Donc la dimension holistique chez le sportif, c'est aussi de lui permettre de se poser des questions existentielles sans être jugé. Parce que aujourd'hui, la question de la spiritualité est devenue quand même tabou en France. Il y a un retour de ces questions-là quand même, mais c'était assez interpellant, et merci Philippe de nous avoir partagé ça sur ta recherche spirituelle et ce constat que Jésus, pour beaucoup, est un mythe. Et je vous encourage à utiliser les parcours alpha, pour découvrir cela. J'ai un voisin avec qui je faisais du futsal, qui est un proche du Stade Rennais, voilà, qui connaît des gens du staff, pour dire, mais qui a baigné dans le football, qui a joué aussi un bon niveau, on a sympathisé, et pendant longtemps, Jésus n'était qu'un mythe. Alors, je lui ai proposé de faire un parcours alpha, et puis il l'a pas fait au complet, mais il a avancé dans sa vision de Jésus. Déjà, il a reconnu que Jésus a existé historiquement. Alors après, passer à la révélation que Jésus est réellement le Fils de Dieu et qu'il est Dieu fait homme, ça c'est une autre étape. J'espère qu'il y arrivera un jour. Mais c'est pour vous dire qu'on part de loin quand même, en France. Voilà le niveau spirituel où on en est rendu. Et donc, il y a tout un travail aussi à faire pour pouvoir répondre à ces questions que ces gens se posent. Et comme disait Philippe, peut-être tu te sentais mal à l'aise de dire, mais je me sens bête de dire, est-ce que Jésus existe réellement? Mais il y a de la place pour poser ces questions-là, en fait. Et c'est le rôle, je pense, d'un aumônier de pouvoir répondre, non, ta question, elle n'est pas bête, elle est légitime. Et voilà, les étapes, voilà ce que tu peux avoir aussi comme source, fiable pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais je veux rester sur la dimension, holistique. Sur l'accompagnement du sportif qui est avant tout un être humain et donc qui passe par des périodes difficiles, même si on veut le mettre sur un piédestal, et de pouvoir accueillir ses émotions. Donc c'est pour ça que dans la vision, on a accompagné, soutenir, encourager. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec nos trois axes. Et vous voyez que notre logo, c'est HS, Holistic Sport. Ben, on veut prendre le contre-pied de ça, c'est qu'on veut surtout pas que les sportifs finissent HS. Hors service. Et vous savez que le taux de suicide augmente, de tentatives de suicide et de malheureusement de suicide aussi chez les sportifs. Pourtant, on va se dire, ils ont tout. Ils ont tout ce que pour certains, ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'atteindra jamais. Comme disait Warhol, peut-être Andy Warhol, notre quart d'heure de gloire. Je ne sais pas si on l'aura tous un jour. Et donc, il y a cette recherche dans les sociétés. Et si on ne trouve pas quelle est notre identité en tant qu'être humain, ben on part dans un désastre. Et actuellement, à travers la crise du Covid, beaucoup de questions, se posent, pour énormément de sportifs. Et donc, effectivement, il y a des sports qui sont mieux lotis que d'autres. Et il y a une certaine, injustice même dans la répartition, des finances. Et donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur ces questions un peu philosophiques. Je vais juste vous présenter nos deux axes de proposition. On a une double mission, donc on a une aumônerie sportive qui est pour tous, et je vais redéfinir ce que c'est qu'un aumônier dans quelques instants. Et puis on a la partie mentorat. Pour les sportifs de niveau, alors la plupart pour ceux qui sont engagés dans leur foi et pour certains qui ne le seraient pas encore, mais qu'on peut accompagner. Donc on a ces deux axes. L'aumônerie sportive, elle est censée se mettre en place dans les clubs, dans les événements sportifs, avec une accréditation officielle. Le mentorat, c'est tout ce qui se fait aussi à côté, avec le sportif dans une relation individuelle, dans une relation de coaching. Voilà. Donc ça pourrait se faire dans le club si les clubs donnaient les autorisations, mais ça se fait à l'extérieur, comme Philippe l'a partagé, c'est qu'à un moment donné, le sportif va chercher une aide à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, on ne lui propose pas, ou ce qui serait proposé à l'intérieur pourrait le mettre en difficulté. Alors pour la définition, c'était compliqué de trouver une définition qui soit compréhensible pour les Français. Parce que moi, je me suis formé, on parlait avec Gilles ce matin, avec Sport Chaplaincy en Angleterre d'abord, puis avec Sport Chaplaincy en Nouvelle-Zélande. Donc il faut savoir que Sport Chaplaincy en Nouvelle-Zélande a une expansion assez importante depuis 2010 en fait. C'est un ministère qui est assez nouveau et qui a pris un essor grâce à la Coupe du Monde de rugby. Il faut savoir que la Coupe du Monde de rugby, donc la Fédération internationale, a décidé qu'en Nouvelle-Zélande, chaque équipe nationale aurait un aumônier, donc une personne ressource pour ses équipes. Et que ces aumôniers ont la particularité d'être chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien s'occupe de tous. Il est là pour tous, normalement. Il ne fait pas de distinction entre les religions. Mais il a sa spécificité, mais il est dans l'accueil de tous. La compassion pour tous. À l'image de son maître, de son Seigneur, de Jésus. C'est ça notre modèle. Donc, un aumônier du sport, c'est une personne qui produit un soin pratique. Alors, quand on met pratique, on a changé le mot anglais qui est le mot pastoral. Parce que si on dit à Philippe pastoral, peut-être que tous ceux qui vont être autour de lui, ils vont dire, oula, prosélytisme, où va-t-on? Alors, on dit pratique. Mais pastoral, c'est quoi un pasteur? C'est un berger. Et un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de ses brebis. Une brebis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est faible, en fait, qui est vulnérable, qui peut se faire dévorer par des loups. Voilà, donc c'est un protecteur. Donc il est là, l'aumônier, pour prendre soin du sportif. Donc il prodigue un soin pratique et ou spirituel, parce qu'on veut pas, l'aumônier ne veut pas se renier non plus, il a une spécificité. Alors peut-être qu'à un certain moment, avec les prêtres ouvriers, on leur a demander de pas trop parler de spiritualité. On en a parlé hier à la FSCF. On faut pas trop en parler de ces choses-là. Hein. Et on perd, on dilue. À force, on dilue. Et puis on s'étonne de ce qui est devenu la France, en fait. On a tellement dilué le message, on a tellement mis de côté nos valeurs chrétiennes que bah, on s'étonne des problématiques dans lesquelles nous sommes. Donc il y a une spécificité spirituelle. Mais c'est toujours fait avec permission, dans le but de rechercher le bien-être holistique de tous ceux qui sont engagés dans le sport. Et quand je dis tous ceux, on a tendance à parler des sportifs, mais on ne s'occupe pas que des sportifs, on s'occupe aussi des dirigeants, des entraîneurs et de ceux qui sont autour, en fait. On peut avoir des relations avec les familles aussi. Donc tous ceux qui sont engagés dans ce monde du sport, l'aumônier est là pour eux. En Angleterre, j'ai rencontré un aumônier qui était là pour les supporters, pour accompagner les supporters. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre dimension. On en a parlé hier. Deux qualités indispensables pour un aumônier, c'est la présence et c'est l'écoute. C'est pas un ministère de la parole. La présence, ça a été dit hier. Je me suis bien retrouvé. Nous, c'est le mot-clé. Voilà. Et il y a cette phrase qui dit que les sportifs ne s'intéressent pas à ce que tu sais jusqu'à ce qu'ils voient que tu t'intéresses vraiment à eux. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont autour des sportifs. Vous savez, moi, j'accompagne Olivier Giroud. J'ai ma boîte mail qui sature de demandes pour avoir ceci, pour avoir cela, pour tirer profit de lui, pour récupérer de l'argent. Voilà. Donc, les sollicitations sont énormes, en fait. Donc, l'aumônier, il doit être aussi désintéressé. Pour ma part, j'ai travaillé 2 ans avec Olivier Giroud sans que ça se sache. J'aurais aimé que ça ne se sache pas. Parce qu'on est dans de l'ordre de l'intime. Donc, c'est compliqué quand certaines relations viennent à la lumière. Aussi, pour l'aumônier, il faut pouvoir le gérer. Alors, dans le cadre d'Olivier, je suis plus un mentor qu'un aumônier, puisque j'ai pas l'accréditation officielle de la Fédération française. Dieu voulant, ça viendra un jour. Mais je suis plus dans le mentorat, dans l'accompagnement. Voilà. Les choses sont telles qu'elles sont parce que Olivier a décidé de dévoiler cette relation, d'en parler, puisque pour lui, il n'avait rien à cacher. Mais il y a aussi une discrétion qui est importante dans ce métier. Donc c'est une culture de la protection et de l'amour désintéressé, sans distinction de la religion, mais dans lequel il va y avoir des opportunités. Sur le thème de la présence, j'ai un ami aumônier anglais qui dit, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer quand on est aumônier, Et Gilles le voit peut-être à la FSCF. Des fois, on se sent inutile, on sent qu'on sert à rien, qu'il va rien se passer. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'est pas là, il ne se passera rien. Et si nous sommes là, il se passera peut-être quelque chose. Et ce peut-être appartient à Dieu, en fait. Donc c'est à nous de nous rendre disponibles et d'être présents. Donc ça c'est important. Pourquoi on va être présent? Je peux mettre là. Parce que, comme ça a été rappelé ce matin, en fait, le sportif a une pression de tous côtés. À l'intérieur de l'équipe, la concurrence, celui qui aujourd'hui mon ami peut être celui qui va prendre ma place, pression du coach, pression des dirigeants, du public, des médias, en fonction de ce qui a été dit, si on n'est pas dans les codes, Anelka par exemple n'a pas été dans les codes à certains moments, il en a payé le prix, donc pression supplémentaire, et puis une pression qui arrive, qu'on oublie souvent, c'est la pression de la famille, pression sur les enjeux financiers, des extorsions de fonds se produisent des fois dans les familles, on accompagne des personnes dans des situations comme ça. Et puis, le dernier qu'on n'a pas mentionné dans les trois petits points, et je m'en rends compte, je vous invite, si vous n'avez pas lu l'autobiographie de Johnny Wilkinson, grand joueur de rugby, la pression qu'on se met soi-même tout seul et qui peut venir d'un problème dans notre enfance, problème identitaire. Donc là où il y a de la pression, il y a de la dépression et c'est là où, si on est mal entouré, mal accompagné, il peut y avoir des dérives. Donc tout ce qui va être les addictions, alors plus que le stress, même l'anxiété, la dépression. Aujourd'hui, on parle de plus en plus dans le monde du sport, je ne sais pas si tu as vu ça, Philippe, le mot à la mode, c'est la santé mentale. Donc moi, j'ai fait une formation sur la santé mentale positive. On fait une sensibilisation actuellement sur les réseaux sociaux par rapport à ça, dans un contexte de crise. Comment se stimuler pour avoir une santé mentale. Entretenir une santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il ne faut pas confondre la santé mentale et la maladie mentale. Et si on n'entretient pas bien sa santé mentale, et chacun d'entre nous en est responsable, et vous faites chacun ici office d'ovni dans l'église, c'est-à-dire que vous prenez soin de votre corps, et vous avez une pratique physique, normalement, régulière. Ce que la plupart des gens n'ont pas forcément. Et dans le contexte que nous vivons, on voit que c'est très important d'avoir une activité régulière. Je pense que ce qui a été mis en avant à travers le Covid, c'est que le sport, finalement, contrairement à un verset de la Bible qu'on interprète mal, est utile. Peut-être à peu de choses, mais il est utile. Il faudrait peut-être revoir certaines de nos traductions dans l'épître de Paul à Timothée, mais il est utile. Donc, ça va jouer la place de notre corps, faire une activité, joue en ce moment sur notre niveau d'anxiété, nos dépressions et qui peuvent pousser à des tentatives de suicide. Voilà. Donc le mal-être chez le sportif est présent. Perte d'identité, repli sur soi et puis l'orgueil aussi qui peut emmener dans des dérives. Tout ça c'est aussi des conséquences qu'il peut y avoir d'addiction qu'on développe dans le sport. Aujourd'hui, énormément de joueurs, du fait de prendre des dangers, prendre des risques, développement de l'adrénaline, ce qu'on retrouve dans le sport, on veut le reproduire, les déceptions qu'on a eues dans nos échecs, les défaites, comme on est compétiteur, on veut à tout prix gagner. Donc on va rechercher cette sensation de la gagne dans les paris sportifs. En France, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont, notamment dans le monde du football, qui sont accros au PMU et qui vont dépenser énormément d'argent. En Angleterre, il y a des formations par rapport à ça, il y a des sensibilisations. En France, je ne sais pas trop, je passe ce retour-là des joueurs, je sais qu'il y a des choses qui sont quand même mises en place, mais la gestion de l'argent, ça c'est important. Je lisais ce matin un texte dans les proverbes, qui interpellait sur cette notion. Il faut mieux avoir peu mais amasser progressivement que d'avoir trop d'un coup. Parce que la question de la maîtrise de soi, et on a certains qui peuvent même avoir la foi, et parce qu'ils ont trop d'argent, ils vont, excusez-moi du terme, à péter une durite, hein, ils vont perdre, ils vont plus garder les pieds sur terre, quoi. L'argent va les amener dans d'autres sphères. Et donc il y a cette addiction, cet amour de l'argent qui se rajoute. Peut-être Philippe voit ces problématiques. Moi, j'ai aussi contact avec des agents, avec des dirigeants, avec des joueurs. On est dans une bulle spéculative aujourd'hui, notamment dans le monde du foot, donc en train d'exploser, hein. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans une surenchère. C'est-à-dire qu'un joueur qui a une valeur salariale de 20 000 euros par mois, on est obligé de le vendre. De le proposer à 30 000 parce qu'il est endetté à hauteur de 20 000 par mois. Parce qu'en fait, il a pris un mode de vie supérieur à ce qu'il gagne. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, celui qui gagne 20 000, il a un joueur qui gagne 100 000. Et comme il veut faire la même chose, ben lui s'endette. Et donc, on a un vrai problème par rapport à l'argent. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'après, à un moment donné, dans l'accompagnement du sportif, le sport n'est plus un plaisir, n'est plus ce qu'il était à la base, qui était un jeu. En fait, il y a une pression qui se rajoute sur faire de l'argent. Et c'est là où peut-être le sport est devenu plus grand que ce qu'il aurait dû l'être. Et nous, dans notre perspective chrétienne, le sport est devenu un dieu, est devenu même une religion. Et là, on a perdu pied. Et la notion de plaisir, on doit y revenir. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est un peu ce qui nous a été dit ce matin aussi. Quand je décroche, quand je me retire, pourquoi j'ai fait ça en fait? Qu'est-ce que je cherchais dans ce sport? Ça c'est la question de la présence libérée du temps. La prochaine diapo, on va dire ça, c'est que on a des opportunités en tant qu'aumônier, quand on nous donne la possibilité, c'est d'accompagner des personnes. Et dans cet accompagnement, on peut leur proposer quelque chose qui est spécial, c'est la prière. Et on peut aussi leur proposer, toujours avec permission, s'ils ont envie d'aller plus loin, c'est de découvrir la foi, découvrir l'évangile, en fait. Et de revenir sur des questions existentielles, des questions où on part de loin, mais oui, parler de Jésus, son historicité, l'impact qu'il a eu, qui il était. Donc ça, c'est toujours avec permission. Et dans cette réflexion-là, on peut poser des bases. Et je pense que ça a été redit. On a parlé du don. S'il y a un don, il y a un donateur. Relisez Romains 1. Ils ont adoré la créature plutôt que le créateur. L'objet du sport, c'est ça. C'est adorer les hommes plutôt qu'adorer Dieu en célébrant les hommes qui se mettent en action à travers les dons que Dieu leur a donnés. Donc si nous sommes là et que nous pouvons faire du sport, c'est que Dieu nous a donné un don. Et moi, ce que je dis toujours, et ça a été le problème de l'Église, et peut-être davantage des églises protestantes et évangéliques, et l'Église catholique va avoir le même problème, c'est la place de la musique. Aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de groupes de pop louanges. Et donc, un jeune qui fait du sport dans l'église, il est mal vu parce que la place de son corps, le corps n'est pas valorisé. Donc, un jeune, s'il veut trouver sa place dans l'église, s'il joue d'un instrument de musique, il va trouver sa place plus facilement dans l'office. S'il fait du sport, ça va être dur. Moi, j'ai un frère qui est très doué en musique, mais qui n'est pas doué du tout en sport. Moi, je suis doué en sport. Vous me donnez une guitare, c'est un désastre. Vous me demandez de chanter, c'est une catastrophe. Ça m'empêche pas de louer et de chanter Dieu. Mais ce ne sont pas mes dons. Donc je ne vais pas, même si j'ai un statut de pasteur dans mon église, parce que ce n'est pas moi qui vais mener les chants. Parce que ce n'est pas mon don, tout simplement. Mais donnez-moi un ballon, et là c'est une autre affaire. Et pourtant, on a sacralisé l'un et dénigrer l'autre. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a pas ce dualisme, en fait. On a tous reçu des dons. On a parlé du corps, 1 Corinthiens 12. Ben, il y en a qui sont peut-être des petits orteils. Alors, les sportifs dans l'église sont souvent le caillou dans la chaussure, pour l'église peut-être. Mais on a tous une place, on a tous un rôle. Et on est tous placés à des endroits stratégiques, en fait. Et Dieu veut qu'on puisse rayonner et partager son amour autour de nous. Et je pense que le moteur pour un aumônier, c'est d'abord d'être équipé de la compassion que Jésus avait. Et de pouvoir se détacher. Et je pense que c'est le plus dur pour l'Église, en quête de légitimité, de vouloir s'attirer les stars et même d'accompagner les stars. Je suis bien placé pour en parler. Mais notre motivation, ça doit être l'amour et de les voir pour qui ils sont. Parce que Jésus, quand il voyait des grandes foules, vous voyez, c'est souvent marqué dans les évangiles. Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Qu'il était ému de compassion. Parce qu'il les voyait errants. En fait, il voyait plus loin que ce que l'œil humain pouvait voir. Et le monde du sport est un monde à part. Mais quand on regarde bien, derrière ces victoires, il y a beaucoup de fragilité. Mine de rien. Et donc, ils ont besoin d'être aimés. Et moi, ce que j'ai découvert, ça a été mon parcours de foi, quand je me suis tourné vers les évangiles quand j'avais 19 ans, c'est qu'un sportif, il est aimé pour ce qu'il fait. Alors que l'évangile, c'est le contraire. C'est on est aimé pour qui on est. Et la manière dont on est aimé va influer ce qu'on va faire, va influer sur nos motivations. Et là, il y a toute une réflexion à avoir sur quelles sont nos motivations les plus profondes. Est-ce que je fais ce que je fais en étant motivé par l'amour? Ou est-ce que je fais ce que je fais parce que je suis motivé par ma gloire pour en retirer quelque chose? Et quand finalement, celui qui nous aime, c'est Dieu, quand ce Dieu est un père et que je suis son enfant, alors je suis dans une culture de la protection et une culture de la sécurité. Et c'est ce travail que j'essaye de faire. Avant que je sois chrétien, j'étais pas libre sur le terrain. J'avais mes peurs, j'avais mes angoisses. Et quand j'ai été touché par l'amour de Dieu, quand j'ai rejoué, certaines personnes qui me connaissaient d'avant me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas le même joueur. En fait, j'étais devenu plus fort. Alors, c'est pas le discours que je donnais avec certains, parce que certains cherchent un moyen d'être plus fort. Et là, on tombe dans la superstition. Mais ce que je peux dire, c'est que l'amour de Dieu nous rend plus forts. Parce que l'amour de Dieu nous libère, en fait. Et là, il y a un puissant message à faire passer. Alors, ce monde ne peut pas l'entendre, quelque part, ne peut pas l'accepter en tant que tel. Mais ceux qui l'expérimentent, ceux qui sont au quotidien, qui voient ces sportifs qui sont transformés, je pense que l'amour est le plus grand moteur, en fait. Et là, on a une réflexion et on a quelque chose à apporter. Si tu peux me mettre. Voilà. Alors, l'aumônier qui intervient dans des compétitions internationales, bah, c'est beau parce qu'il voit cet amour. C'est-à-dire qu'il voit des gens de nations opposées qui vont se réunir et qui ont peut-être la peau. Possibilité de se bénir, en fait, de prier les uns pour les autres. Donc là, c'est à Rio, vous voyez, donc on a un bel uniforme, et donc on a à Rio, dans les Jeux Olympiques, on a à la fois la dimension holistique, la dimension de prendre soin du sportif, mais aussi on a la dimension de la célébration. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que un sportif, quand il fait les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, il vient pas juste le jour de sa compétition. Il est là des fois 2 semaines, 3 semaines avant pour s'acclimater en fonction du pays. Si on change de saison, peut-être c'est l'été en France et c'est l'hiver dans une autre nation, donc il faut que le corps s'adapte. Le décalage horaire, donc il vient. Il va arriver longtemps avant. Il va aussi partir des fois après parce qu'il vient avec une délégation, il a une représentation. Tout ça fait que certains peuvent être partis 1 mois de chez eux, des fois plus. Et donc il y a eu une réflexion aussi. Comment la spiritualité pourrait prendre place. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est une vision très française de se dire il faut mettre une église au milieu du village. Eh bien, on a un centre multi-foi au milieu du village olympique. Voilà. Et c'est. Alors, à Rio, c'était un petit peu catastrophique. On espère qu'à Paris 2024, ils feront mieux. À Rio, vous avez su que c'était une gestion financière catastrophique. Donc, l'aumônerie était la dernière roue du carrosse. Donc, ils nous ont laissé les préfabriqués que les ouvriers avaient pour construire les immeubles. Voilà dans quoi on était. Donc, vous voyez à droite l'équipe, une partie de l'équipe d'aumôniers. Alors, normalement, on est censé être neutre dans notre tenue, mais les bouddhistes ont toujours le droit à plus, apparemment. Donc, c'était un peu l'exception. Mais donc, on a la même tenue, on a une accréditation spéciale. Et on peut avoir accès aussi aux infrastructures sportives, et on est là. Alors, le centre multi-fois, je ne sais pas, Philippe, tu n'as peut-être pas connu, en 84, c'était pas encore en place, c'était officieux. Ça a démarré en 72 avec Munich, en fait, avec les attentats de Munich. Et en 88, à Séoul, ça a pris son essor. Et donc, dans ce centre multifois, alors c'était particulier à Rio, parce que ça faisait comme un parcours, c'était comme les boutiques au marché de Noël, chacun vient de stand en stand. Et donc, on a vu des sportifs venir de stand en stand, ce qui montre bien qu'il y a une recherche de spiritualité. Et ça, c'est pas un problème pour un aumônier, parce que la personne, elle est en recherche. Donc, si elle vient autant de prières fait par les chrétiens, et puis qu'après elle va à l'office bouddhiste, c'est pas grave, quelque part. La personne, elle est là, elle est en recherche, elle peut venir poser des questions. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un concentré qui est proposé ici, où finalement, oui, ils peuvent venir à la carte un petit peu, chercher ce qu'ils veulent, et avoir une opportunité de découvrir une foi qu'ils n'auraient peut-être pas l'opportunité de découvrir avant et autrement, en fait. Et d'où l'importance de la présence chrétienne dans ces moments-là et dans ce qui est proposé. Alors après, je vous avoue que faire une étude biblique en même temps que le culte bouddhiste, c'est assez intéressant. Quand vous entendez yin yang yang bing bong yin bong yin yang gang yang bong yin bong 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 pendant une demi-heure, la question de la concentration est intéressante pour se plonger dans les écritures. Donc là, ça nous demande de la souplesse, de l'adaptation, de dire on va faire notre temps en décalé de ça. Donc voilà. Mais ça, c'est une chose qui est possible et c'est sur quoi il faudra travailler. On va travailler sur Paris 2024. Alors je vous interpelle. Peut-être, Pascal, tu seras aumônier aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. Je vous interpelle parce que je pense que la pastorale du sport a un rôle important à jouer dans ça. Un lien entre protestants et catholiques dans ce qui va être mené, dans ce qu'on nous avons de commun. Et normalement, peut-être le diocèse de Paris a déjà été contacté sur cette question-là, mais il est important que des gens spécialistes du sport puissent s'emparer de cette question. Parce que sinon, on va mettre des personnes en place qui auront peut-être une notoriété dans le monde spirituel, mais qui sont déconnectées de la réalité des sportifs. Et l'enjeu, aussi pour certains, c'est de se rendre visible sur un événement populaire. Et donc, il est important d'être nous-mêmes, chacun au clair sur nos motivations. Pourquoi on va faire ce qu'on va faire? Si c'est pour aller faire des selfies avec Teddy Riner, sachez que c'est interdit. On n'a pas le droit, même si beaucoup enfreignent les interdits, on n'a pas le droit de faire des selfies avec les athlètes. On est là à leur service. C'est pour ça que moi, quand je suis dans le service d'aumônerie, vous ne me verrez jamais avec des athlètes. Et il y a beaucoup d'athlètes, vous savez, ça part de Usain Bolt à d'autres, que je peux côtoyer, dont je ne parlerai jamais de mes rencontres avec eux, ni même vous verrez des photos. Parce que une des clés de l'aumônerie, c'est la confidentialité. On n'est pas là pour raconter les confidences que les sportifs nous font. Donc ça, c'est très, 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 très important. Voilà le projet que l'on propose dans les services. On a plusieurs dimensions. Donc, je vous ai parlé là l'exemple des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, donc dans les grandes compétitions. Donc, il y a le service d'aumônerie aux mondiaux d'athlétisme, Coupe du monde de rugby. J'ai fait le championnat du monde universitaire de rugby aussi, où il y avait les équipes de France, il y avait un service d'aumônerie qui était là. Donc c'est toujours une découverte hein, pour les équipes nationales françaises, pour les dirigeants, de découvrir qu'il y a ce service qui est proposé. Ce qu'on veut faire et développer en France, et c'est un vrai sujet de prière, c'est de proposer un service d'aumônerie dans les clubs, auprès des académies aussi. Donc il faut savoir qu'en France, il y a deux clubs professionnels qui ont un service d'aumônerie. Donc il y a un club de rugby des Dragons de Perpignan, rugby à 13, qui s'est vu imposer un aumônier grâce à nos amis anglais, qui l'ont imposé dans leur charte de fonctionnement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Si les Anglais peuvent le faire, pourquoi les Français n'y arriveraient pas? La laïcité, et je pense que la laïcité est un faux problème par rapport à ça. Ils en ont une. Non, la laïcité, c'est de permettre la liberté de culte et de croyance de tous, c'est de ne pas imposer quelque chose. Donc, à partir du moment où ce n'est pas imposé à tous, on peut proposer un service. Et c'est pour ça qu'on a des aumôniers dans les hôpitaux, dans les prisons, on en a même maintenant dans les aéroports, ce qui montre qu'il y a une exception. Et donc, ce qu'il faut, c'est que l'accompagnement ne soit pas rendu obligatoire, forcé. C'est pour ça que c'est toujours avec permission. Et c'est libre cours aux sportifs de vouloir faire une demande pour cela. Donc, ça marche dans le club de Perpignan, de rugby. D'ailleurs, la fédération de rugby à 13, a sorti un article dans son magazine officiel. Donc, ne s'en cache pas. Donc, ça, c'est aussi une réflexion à pouvoir mener et des documents à pouvoir amener sur la table. Et puis après, il y a le service qui est plus du mentorat, c'est l'accompagnement individuel aussi des sportifs. Et là, on l'a vu, notamment en cette période de Covid, où des personnes qui n'étaient pas forcément croyants ont rejoint les services qu'on a proposés en ligne parce qu'ils avaient besoin d'une écoute, ils avaient besoin d'un groupe de parole et ils avaient besoin aussi de trouver de l'espérance dans ce moment difficile. Donc on a vu voilà, des choses positives. Pour décliner ces soutiens que l'on fait, ils sont à différents niveaux. Alors, ce que le syndicat des sportifs de haut niveau fait aussi, en fait, hein, il y a des choses qui sont complémentaires. J'imagine, voilà, dans ce qui a été partagé ce matin, le soutien après la carrière est important. Donc, il y a la dimension soutien pastoral ici, spirituel, qui peut aussi intéresser les clubs. Les clubs sont intéressés par un service d'aumônerie. Aussi, j'ai rencontré le président Létang, ancien président du Stade Rennais, qui, sur le côté, s'il y a un aumônier dans le club qui peut être là par période et qui peut être là pour proposer un accompagnement pour le baptême, pour les mariages, pour les choses qui sont de l'office religieux, quelque part, ben c'est bien d'avoir un référent, d'orienter les personnes. Donc là aussi, il peut y avoir un accent qui peut être donné différemment, en fait. Et on s'adapte. Dans certains milieux, l'aumônier, et le mot aumônier fait peur, parce qu'il renvoie à une histoire, il renvoie peut-être à une culture chrétienne, et donc il renvoie à des services religieux. Pour certains, ça leur fait peur. Pour d'autres, ça les rassure, ils disent oui, il y a cette carte-là à jouer. Et pour d'autres, c'est plus la partie présence, écoute, accompagnement, bienveillance auprès des athlètes qui les intéressent. Et donc l'aumônier se fait tout à tous. En fait, il s'adapte aussi à l'environnement et à ce qu'on lui propose. Ben là, on l'a vécu, hein, gestion d'urgence aussi. Alors, il y a des traumas, il y a des accidents, mais à travers ce qui se passe avec le Covid. Il y avait une urgence dans l'accompagnement des sportifs. Il faut savoir qu'il y a des sportifs des équipes nationales françaises qui ont bénéficié de services d'aumôniers, personne ne le sait, en situation traumatique. Je pense notamment à un champion très connu, dont je dirais le nom, en équipe de France de rugby, qui avait pris un choc lors d'un match en Angleterre ou au Pays de Galles. Il est obligé de rester 3 jours en observation à l'hôpital. Toute l'équipe repart après le match, parce que chacun a ses obligations. Il se retrouve seul. Qui est là à côté de lui? L'aumônier. Voilà. Un soin qui est proposé. Donc, j'espère que tout ça fera réfléchir les gens dans les instances du sport. Mais quelle est la place de l'accompagnement? L'après-carrière, on se rend compte, quelqu'un comme Robert Pires, qui a été champion du monde, qui a eu une très belle carrière, le jour où son contrat s'arrête, très difficile le lendemain. Plus de kiné, plus d'ostéo, plus d'entraîneur, plus d'intendant pour nous laver les chaussures, plus rien en fait. Et là, on se retrouve seul. Pendant toute notre vie, on nous a dit, bah, demain, tu dois être à telle heure à l'entraînement, après, tiens, tu dois aller voir tel média, tiens, il y a ton billet d'avion, tiens, tu vas faire ça. Tous les jours, tout est régulé, même leurs vacances, ce sont leurs agents qui leur disent, ah bah tiens, c'est le lieu à la mode, tu vas là-bas. Ils ont rien à faire, en fait. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Et là, c'est le choc. Donc, qui peut être là aussi et accompagner et accueillir aussi leurs émotions? Ben voilà, le mentor, l'aumônier, le pasteur qui peut être là pour soutenir ces sportifs. Gestion de crise, vous l'avez vu au FC Nantes, avec le drame d'Emiliano Sala, ce qui s'est passé, le club a mis en place une cellule psychologique. Le psychologue était là. Je ne sais pas si ça a marché. J'ai pas eu ces échos-là des joueurs que je connais. J'aurais pas tendance à y aller. Ça reste aussi un peu tabou d'aller voir un psychologue. On a Teddy Riner qui est décomplexé par rapport à ça, qui en parle ouvertement et maintenant c'est un... Alors on se demande si c'est une psychologue du sport ou si c'est un second coach ou quelle est la part un peu des deux quand on voit la relation. Mais il fait appel à un soutien et un accompagnement. Voilà ce que je peux dire sur l'aumônerie et sur l'accompagnement. Sur le mentorat, comme ça a été redit ce matin, un sportif de niveau est un sportif qui a une grande influence dans son environnement. Et ça, on essaye de veiller sur l'accompagnement de ces personnes. Et là, je vais plus parler, voilà, la casquette de l'Église, c'est comment le risque, c'est de les utiliser et aussi de les presser comme des citrons dans l'Église. Et on a un exemple connu dans l'athlétisme, Jonathan Edwards, toujours recordman du triple saut, ouais, de monde, qui à un moment donné a fait la tournée des popotes dans les églises, et puis en fait on n'a pas pris en considération ses besoins intérieurs. Et il est dans une période actuellement où il a rogné sa foi. Voilà. Donc, d'où l'importance. Ils ont une stature, attention de ne pas en faire une statue. Et donc, comment gérer ça aussi? Leurs paroles, de ce qu'ils vont dire, la pression qu'ils peuvent se rajouter. Donc aujourd'hui, bon, on a l'emblème français, peut-être. On a Olivier Giroud qui se fait le représentant du christianisme en France, mais ça peut lui rajouter certaines pressions et il a besoin d'être accompagné aussi dans cela et dans certains pièges que les médias peuvent lui tendre. Donc là, il y a tout un accompagnement et d'avoir de la sagesse pour savoir comment intervenir, comment les accompagner dans ces moments-là. Mais si on a une plateforme de ressources et on a fait quelque chose pendant avec le site plusquesportif.org et la chaîne YouTube plusquesportif, c'est qu'on a donné la parole aux sportifs pendant la période de Covid. Et on a créé une web série qui s'appelle Confiné, pas désespéré. Alors, je sais pas si on va faire la deuxième saison avec ce qui se trame. Reconfiné, pas désespéré. Vous avez par exemple Marielle Amand qui joue en équipe de France de basket, qui est à La Roche-sur-Yon. Marielle Amand. Voilà, on a plusieurs joueuses qui sont en équipe de France de basket, de hand. Il y a des footballeurs qui partagent un petit peu leur quotidien, et je pense que ça leur a fait du bien de pouvoir s'exprimer, de montrer aussi, de donner de l'espérance. Dans ce moment de crise, donc c'était des ressources assez aussi ludiques et pratiques où chaque sportif nous partageait son quotidien, qu'est-ce qu'il faisait pour rester en bonne santé mentale. Donc avec leur plat préféré, ce qu'ils cuisinaient, on découvre Marielle qui est passionnée de couture. Donc c'est intéressant aussi de voir ces sportifs de haut niveau qui nous partagent leur univers aussi, qu'est-ce qu'ils font à côté du sport pour se ressourcer. Et c'est intéressant de développer cette question-là, et même l'aumônier peut être ressource. C'est que nous-mêmes, nous le savons, nous ne sommes pas que des sportifs, nous avons d'autres talents. Alors moi, c'est pas la musique, mais il y a d'autres choses que nous savons faire. Il paraît qu'il y a certaines études qui nous disent que chacun d'entre nous, on a plus de 100 talents. Alors tous ne sont pas des talents extraordinaires. Mais on a tout plein de choses que l'on sait faire. Par exemple, Pascal, il a un talent, c'est qu'il est plutôt doué dans tout ce qui est technique pour gérer tout ça. Ça serait quelqu'un d'autre qui le ferait, ça serait peut-être pas aussi bien fait, ou ça serait pas fait du tout. Et ben voilà, ça c'est aussi d'autres choses dans lesquelles aussi on peut s'épanouir, mettre nos dons, nos capacités dans la technologie au service aussi de l'évangile, partager voilà différentes choses. Et c'était intéressant de voir Marielle dire, je fais de la couture, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des masques qu'elle allait offrir. Voilà. Donc vous voyez aussi à travers ça, on voit sa foi chrétienne qui transparaît parce qu'il y a l'entraide, il y a la solidarité. Je suis là pour servir les autres. Donc on a fait toute une petite série, on a fait quand même pas mal, on a fait 13 épisodes. Donc vous pouvez retrouver ça aussi. Et ça a eu de l'impact dans l'environnement des joueurs, dans les clubs en fait. Et c'est comme ça que même certains sportifs ont dit, ah mais c'est bien, tu fais partie d'un groupe, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on a un groupe de parole, si tu veux venir, tu peux. Voilà. Donc voilà ces services qui ont été proposés en périphérie. Donc après, juste vous mettre des ressources qu'on a à disposition. Alors j'ai un rêve, c'est peut-être parce que je suis marié avec une Anglaise, je rêve beaucoup comme les Anglais et le rêve américain. C'est qu'on a ce petit livre qu'on vient de ressortir en 2020, en 2016. Vous voyez, Olivier, il avait la version 2016. Cette année, il nous a fait l'honneur de la préfacer, puisqu'en 2016, il l'a lu, il l'avait lu. Ça l'a aidé dans sa foi. Et on a 34 témoignages de sportifs de haut niveau qui partagent leur expérience de vie. Et la plupart sont francophones. Ça, c'est une volonté de ma part. Alors, on a quand même Alison Félix qui témoigne dedans pour avoir des connexions aux États-Unis. Mais ça, c'est une ressource qui pourrait être mise à disposition comme ça se fait dans des hôtels, dans des clubs. Parce que, je ne sais pas si vous savez, en Angleterre, il y a le même type de ressources. Ils font ça avec les Gédéons, je sais pas si vous connaissez les Bibles des Gédéons. Et en fait, le club met son logo sur le Nouveau Testament. Et les sportifs ont ça à disposition dans leur chambre, en fait. Et à une époque, ça existait en France, vous alliez dans les hôtels, vous pouviez avoir une Bible. Alors, il y a encore certains hôtels qui le font. Mais oui, puisqu'on est dans une sécularisation de notre société, dans une mauvaise compréhension de la laïcité, on a tout balayé. Mais il pourrait y avoir des ouvertures. Je sais que je l'avais proposé un centre, et je dois, à Cap-Breton par exemple, le directeur n'était pas fermé à cette idée. C'est-à-dire qu'on n'impose rien, on propose, on met quelque chose sur la table de chevet. Si demain ils veulent mettre un courant aussi parce qu'ils trouvent que c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais comment on peut être force de proposition pour ne pas nier le fait religieux dans notre société, mais offrir une opportunité aux gens de nourrir leur spiritualité? Voilà, c'est ça aussi enfin, l'enjeu du travail que l'on fait à Holistic Sport, c'est de valoriser la place de la spiritualité. Et puis que le sportif n'est pas à être brimé parce qu'il a une spiritualité. Tout comme l'athée n'a pas à être brimé parce qu'il n'en a pas. C'est son choix, en fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui se passent dans les coulisses, et il faut être conscient que les sportifs musulmans sont davantage force de proposition, sont davantage incisif dans ce qu'ils vont demander, et que certains clubs ont ouvert des vestiaires pour y faire la prière, mais que cela se fait sous le manteau, en fait. C'est dommage parce que ça veut dire qu'on là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la laïcité, c'est qu'on favorise une religion au dépens des autres. Et on favorise même, on prend un vestiaire, un lieu qui est pour tous, et on l'offre à une seule communauté. Ça, c'est dangereux, en fait. Et c'est là où on doit avoir une réflexion. Quand le président Ola Salon Olympique Lyonnais, il crée une salle, il fait une salle de recueillement. Parce qu'il réfléchit le projet. Au départ, il veut faire une salle de prière. Comme à Barcelone, comme la chapelle. Et puis, il s'adapte. Mais dans cette salle de recueillement, à l'Olympique Lyonnais, il y a trois textes sacrés. Dieu soit loué, il y en a deux de la Bible. Un dans l'Ancien Testament, la Torah, et puis un dans les Évangiles, et un dans le Coran. Voilà. Et donc chaque sportif qui vient dans ce lieu de recueillement peut méditer un texte. Et ça, c'est pas, ça existe en France. Merci Jean-Michel Aulas, merci les Dragons de Perpignan, ça nous montre qu'il y a une voie. Il faut pas oublier qu'à une époque, on avait le stade, enfin, qui s'appelle toujours comme ça, même si on peut être le renommé, mais pour le marketing, le stade l'Abbé des Champs, l'influence qu'il y a eu à travers les patronages, on en a parlé hier dans un regard historique, je pense qu'il y a des choses à reproposer et de sortir de peut-être même d'une timidité qu'on a eue. On peut être force de proposition, on a des bonnes choses à proposer, respectons le cadre. C'est différent d'une pastorale des sports où moi j'interviens en tant qu'aumônier à Luxeuil, par exemple. Si on parlait de Luxeuil et de la laïcité, là on pourrait dire que Luxeuil, et puis il y a une réflexion, propose quelque chose qui est finalement imposé à tous. C'est ce temps pastoral. Donc si quelqu'un vient ici à une compétition comme je vois, une compétition de volley, et qu'il est musulman, en fait, dans ce temps, il va entendre l'évangile, même s'il ne veut pas l'entendre. Voilà. Parce que c'est ce temps de réunion à tous. Mais quand on est dans l'aumônerie spécifique du sport, on n'impose rien. On est présent, on est disponible. Et si quelqu'un veut faire appel à nous, on est une personne ressource. Et il faut savoir que même en équipe de France de football, il y a des choses qui se font. Sauf qu'on n'en parle pas, parce que oui, on érige la laïcité comme si c'était un dieu. Mais à certains moments, les staffs permettent, en dehors des matchs, que tel joueur le vendredi puisse sortir pour aller à la mosquée, puisse aller à l'église. Ça, c'est fait. Ça se sait un peu plus. En 2014, une délégation française est allée dans une église au Brésil. C'est organisé. Voilà. Mais alors tout ça demande un coût, ça demande de la sécurité aussi. Faut sortir. Donc là, l'idée, c'est aussi comment la religion peut s'inviter à l'intérieur en ayant un cadre réglementé, strict, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et c'est ce qui se passe dans les prisons, dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que maintenant on passe un DU. Moi j'ai passé mon DU de droit, droit des religions, qui est un DU spécifique aussi pour les aumôniers, pour respecter le cadre. Et pourquoi ils ont fait ce DU? Pourquoi le gouvernement a mis en place ce DU? Vous savez bien que ce n'est pas pour les chrétiens qu'ils l'ont mis en place. Et ils l'ont mis en place par rapport aux imams qui ne respectent pas les valeurs de la République, qui ne comprennent pas la laïcité, et qui sont dans une démarche des fois prosélyte, et même à dire des choses qui vont être contraires au règlement. Donc ça a été mis en place. Donc je pense que globalement, les chrétiens, on respecte les règles du jeu, si on parle en termes sportifs. Mais ne nous cachons pas et essayons de voir comment on peut faire avancer les choses d'une manière positive et d'une manière bienveillante pour accompagner les sportifs. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Merci à vous.
Merci beaucoup.